Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, mais jamais à genoux.
En direct du studio 511, une émission réalisée sous bonne garde par Clément Nouguier, assisté de June Loper, avec Henri Bérec à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, de Tourcoing à Mantes-la-Jolie, une jeunesse en danger, une jeunesse humiliée, dans le Nord, des coupes budgétaires et des suppressions de places en foyer, et dans le 9-3, c'est à genoux, les mains sur la tête. Ah,
c'est ça la réalité d'un éducateur de structure, donc ça paraît fou.
Il y a eu trop de places de fermer et ils n'ont pas pensé qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont beaucoup en difficulté.
30 secondes, on a déjà mal au genou, on a mal au bras. C'est honteux.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Voilà une classe qui se tient sage. Peut-être qu'un jour, des journaux du soir résumeront ainsi les comptes rendus de manifestations avec ces phrases célèbres, quand les irritables gilets jaunes auront enfin compris qu'il faut laisser les ronds-points aux tuniques bleues. En attendant ce qui se dira ce soir, vers moitié vide, vers moitié plein, au gré des images de mobilisation et celles des nouveautés en matière de maintien de l'ordre, le substrat de colère, lui, reste. Et c'est pas la sempiternelle grogne que rabâchent les chaînes d'actu, mais une véritable colère née du mépris et de la souffrance sociale. Pour le mépris, on a vu au gré des réactions depuis la semaine dernière, à quel point les mêmes commentateurs qui fulminaient pour un moulage en plâtre le samedi à l'Arc de Triomphe s'accommodaient très bien de voir des enfants de Mantes-la-Jolie à genoux, les mains sur la tête, le jeudi suivant. Chacun ses symboles, semble-t-il, mais ce ne sont assurément pas les mêmes. Voilà une classe qui se tient sage, Antoine.
Eh bien non, ils ont décidé de ne pas être sages, les lycéens. Et mardi dernier, c'était mardi noir. Dans la foulée des gilets jaunes et à l'appel de 3 syndicats lycéens, des élèves et des professeurs se sont mobilisés pour dénoncer la sélection à l'entrée à l'université, alias Parcoursup, la réforme du bac et la répression policière.
Et pendant ce temps, alors que même un collectif de journalistes annonce qu'il va porter plainte contre la police, pendant ce temps, nos éditorialistes répètent que depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les mobilisations n'ont plus lieu d'être. Ou bien s'indignent des conditions de détention du grand patron Carlos Ghosn au Japon, sans se donner la peine d'écouter les vies qui sont hachées menues chez nous, faute de moyens. Alors aujourd'hui, une petite piqûre de rappel avec la protection de l'enfance, Charlotte.
Depuis le mois d'octobre, les travailleurs sociaux du Nord se mobilisent pour dénoncer les mesures d'économie qui frappent la protection de l'enfance. Dans ce département, le deuxième plus pauvre de France, la population paye très cher le prix de la désindustrialisation. Et la pauvreté atteint des sommets, comme à Roubaix, où 46% des familles vivent avec moins de 1000 euros par mois. Dans un tel contexte, la protection de l'enfance joue un rôle essentiel pour tenter d'enrayer la reproduction de schémas familiaux, souvent empreints de violence, et offrir aux gamins cabossés un avenir meilleur. Mais depuis 2015, le Conseil départemental du Nord a supprimé pas moins de 700 places en foyer et les moyens humains manquent aussi. Alors les enfants fragiles, qu'ils sont censés protéger, sont ballottés de foyers d'urgence en famille d'accueil provisoire et certains restent même dans leur famille malgré les ordonnances de placement des juges. Les travailleurs sociaux tirent donc la sonnette d'alarme, multipliant grèves et mobilisations, car plus de 10 000 enfants sont placés dans le Nord et en France, ils sont près de 300 000 à être confiés à l'aide sociale à l'enfance, ce qui représente tout de même une belle partie de l'avenir de notre pays.
Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court de Tourcoing à Mantes-la-Jolie, une jeunesse en danger, une jeunesse humiliée.
Dans ce contexte tendu, autre mouvement de grogne, celui des travailleurs sociaux de Roubaix. Ils dépendent du département du Nord et protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail.
Manque de moyens, suppression de 700 places pour les jeunes en foyer d'accueil.
Prévention, une illusion.
Et on a des enfants qui aujourd'hui se retrouvent sans structure d'accueil.
Plus de misère, moins de moyens, comment faire?
Parce que le département, depuis 3 ans, fait des économies sur l'aide sociale à l'enfance.
Non au travail en mode dégradé.
Une vingtaine d'unités territoriales de prévention et d'action sociale de la région font grève depuis le 3 octobre dernier.
Bonjour Jean-Henri Le Serre, président du conseil départemental. Vos agents de l'aide sociale à l'enfance ont manifesté à Lille la semaine dernière. Ils scandaient « département bourreau d'enfants ». Est-ce que vous êtes négligent avec l'enfance en danger?
Nous avons effectivement voulu baisser le nombre de placements dans le département du Nord.
Bourreau d'enfants !
2 morts par semaine, 1 viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an. Voici le terrible bilan sûrement sous-évalué de l'enfance maltraitée en France.
Comme un bruit qui court.
Qui manque-t-il?
On dit souvent qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir.
Charlotte Perry.
Mais je me demande donc qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants?
Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
Et j'ai une question. Pourquoi il y a eu... Pourquoi il y a la dame avec son micro?
Oui, non.
Mardi 20 novembre. On est à Lille, devant le département du Nord. Et il y a plein de peluches qui ont été déposées. Plein des petits oursons de toutes les couleurs, des tigrous, des petits éléphants, des grenouilles, des bébés, des Mickey. Il y a des centaines de peluches là qui ont été déposées. C'est devant le conseil du département du Nord.
Oui, pour symboliser les places d'accueil qui ont été supprimées.
Il y en a combien alors ?
Alors, il y en a au minimum 700, mais je pense qu'on a réussi à même déplacer les 700 places qui nous ont été supprimées. Donc peut-être qu'on va réussir à symboliser les places qu'il faudrait en plus aussi.
Le gros lion, c'est qui ?
Marie.
Juste pour vous dire, pour vous remercier de vous être là dans le froid, parce qu'on a quand même très très froid aujourd'hui. Vous dire qu'effectivement, merci aussi à tous d'avoir ramené toutes ces peluches qui symbolisent tous nos enfants laissés sur le carreau. C'est évidemment notre cadeau de Noël à Monsieur Jean-René Le Serre. On n'a pas beaucoup apprécié qu'on puisse qualifier le département en tant que personne morale de bourreau d'enfants. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit toutes nos familles qui sont en difficulté et tous les enfants qui sont réellement livrés à eux-mêmes, on ne peut que dire département bourreau d'enfants. Et je vous invite à me dire avec moi...
Yeah, ok. C'est parti. Parlons de la protection de l'enfant. Parlons de la protection de l'enfance. Un enfant en danger, c'est un adulte en convalescence. On parle d'égalité des chances. Mais trop d'enfants en danger deviennent adultes sans adolescence. Parlons de la protection de l'enfance. Un enfant en danger, c'est un adulte en convalescence. On parle d'égalité des chances, mais trop d'enfants en danger deviennent adultes sans adolescents.
N'est-ce pas traîner ton fils, c'est vieux comme une époque. Il y a beaucoup de parents qui glissent. À défaut d'une famille, on choisit ses potes. Et la galère n'a rien d'un French kiss. Comme dirait mon pote Serge, le social n'a pas la cote. Peace and love c'est révolu, l'amour est devenu la monnaie des pauvres, un enfant nous est revenu. Battu, abattu, l'amour se vend, mais c'est fini les soldes. L'introduction est passée, le juge ordonne le placement. Un petit en danger, plus d'hébergement. Le débat est lancé dans la mare, les éducateurs en ont marre. Enfants victimes de leur histoire, victimes de foi. Car plus moyen de leur donner espoir. Ils passent de famille en famille d'accueil, de foyer en foyer, l'accueil est surpeuplé. Serge se casse la tête sans solution. Il est référent d'un jeune de 17 ans à la rue en fugue après 10 ans. Confié à l'aide sociale à l'enfance, le malaise est toujours aussi profond.
Parlons de la protection de l'enfance. Un enfant en danger, c'est un adulte en convalescence. On parle d'égalité des chances, mais trop d'enfants en danger deviennent adultes sans adolescence. Parlons de la protection de l'enfance. Un enfant en danger, c'est un adulte en convalescence. On parle d'égalité des chances, mais trop d'enfants en danger deviennent adultes sans adolescence.
Dans le cadre du secret professionnel, les personnages sont fictifs. Mais ce son est une pensée pour mes collègues et les enfants qui dans le lot sont victimes.
À 7h54, nous évoquons l'inquiétude des travailleurs sociaux du Nord avec Jean-René Le Serre, le président du conseil départemental. Il est notre invité ce matin.
Vous savez que le département du Nord place incomparablement plus que les autres départements. Quand je suis arrivé président, il y avait 95% des enfants qui étaient placés donc sous protection judiciaire, ce qui n'est pas la meilleure solution. Le placement sous la protection judiciaire, ça devrait être réservé aux enfants qui sont maltraités, qui sont l'objet de maltraitance. Vous n'ignorez pas la loi de 2007 qui vient dire le placement doit être l'exception, le remaillage des familles doit être la règle.
Nous voici arrivés à Tourcoing, à quelques kilomètres de Lille. Tourcoing, c'est la deuxième ville la plus pauvre du département, juste après Roubaix, qui est limitrophe. À Tourcoing, c'est 26% de la population qui vit avec moins de 1 000 euros par mois pour toute la famille. Et c'est d'ici de Tourcoing qu'est parti le grand mouvement de contestation des travailleurs de la protection de l'enfance. Et puis la contestation s'est étendue un peu partout. Et là, on va aller retrouver Marie, qui est éducatrice à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Bonjour.
S'installe.
Vas-y, c'est une voiture familiale, c'est pas bien.
C'est le badge du collectif dégradé. C'est un petit badge avec des yeux et une larme qui coule, qui est tout blanc, avec écrit le collectif dégradé.
C'est ça, parce qu'en fait, on a des enfants qu'on a beaucoup de difficultés à placer en ce moment et à faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible leur placement à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on manque de 700 places et on manque de moyens aussi de manière globale. Et donc du coup, c'est un petit peu pour alerter l'opinion publique sur la réalité des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je travaille ici à Tourcoing depuis maintenant 3 ans.
Où ça ?
À l'UTPS de Tourcoing-Mouveau. C'est l'unité territoriale de prévention et d'action sociale. Et donc chaque référent a une quarantaine d'enfants à suivre plus particulièrement.
Ce que le président du conseil départemental, Jean-René Le Serre, dit, c'est que finalement, dans le Nord, on place beaucoup trop. Que 80% des placements pourraient être évités, parce que c'est pas lié à de la maltraitance, mais à des carences éducatives. Et que ça, il faudrait retravailler le maillage familial.
Effectivement, c'est l'objet de la politique départementale du Nord actuellement, en sachant que ce qui est compliqué, c'est que les magistrats, eux, qui prennent les décisions de placement, ils ne prennent pas leurs décisions en fonction de la politique départementale. Donc eux, s'ils estiment qu'un enfant est en danger et doit bénéficier d'une mesure de placement parce que le danger est important, c'est pas parce que le conseil départemental veut baisser les placements qu'ils vont pas prendre leurs décisions. Et en sachant qu'on n'a pas du tout de baisse de placement, parce qu'on n'a pas de placement abusif, on est quand même sur des faits graves en général.
C'est quoi ?
Ça peut être de la maltraitance physique, psychologique, ça peut être de la maltraitance sexuelle. On a aussi des enfants victimes d'actes de torture et de barbarie. Enfin voilà, on a quand même des cas graves. C'est pas juste des difficultés éducatives.
Mais le Nord ? C'est le département où il y a le plus d'enfants placés, je crois que ça dépasse les 10 000.
Parce qu'on a un département qui a une histoire assez lourde, avec effectivement beaucoup de difficultés financières pour les parents, beaucoup de chômage, beaucoup de choses compliquées qui font qu'aussi on en arrive à des situations où les parents peuvent avoir des dépendances, et puis les dépendances par exemple, des dépendances alcooliques peuvent entraîner des violences. On est quand même un département extrêmement précarisé.
Ça, c'est lié à la désindustrialisation, fermeture des usines textiles.
Des usines textiles. Tourcoing avait vraiment énormément d'usines textiles. On était un gros pôle avec Roubaix. Et effectivement, du coup, il y a eu beaucoup d'ouvriers qui n'ont pas réussi forcément à se requalifier. Et donc forcément, ça touche à l'image de soi-même. Donc voilà, c'est des enfants qui ont vraiment leur espace psychique fort encombré.
Ainsi va le monde.
Une production du journal parlé de la radiodiffusion française.
Aujourd'hui, Clara Candiani vous invite à faire un voyage au pays du Nord.
Et maintenant, suivez le guide.
Et tout d'abord, citons l'importance et la place de l'industrie textile du Nord.
L'industrie textile du Nord, c'est véritablement un très gros morceau.
1965.
Vous considérez qu'elle emploie 140 000 travailleurs, c'est-à-dire 20 000 de plus que dans les charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais. Que le chiffre d'affaires est de l'ordre de 800 milliards d'anciens francs, c'est-à-dire les 2/3 de celui de l'industrie automobile française. Qu'en matière de production, pour la laine, c'est 50% de la production nationale et qu'à Roubaix se trouve le centre mondial du négoce de laine. Que c'est aussi 95% de l'industrie linéaire.
Il était une fois dans le Nord, à Tourcoing, une fabrique de tissus pour confection.
La société Tiberghien Frères.
1975.
Cette entreprise qui aujourd'hui tourne et tourne bien va fermer ses portes le 31 mars prochain.
Depuis maintenant 6 mois, le textile est en crise. Réduction d'horaires, fermeture d'ateliers, d'usines même. Que se passe-t-il donc dans le textile du Nord? Comment la concentration la plus importante d'Europe peut-elle être si gravement touchée?
La mort du textile est voulue, elle a été programmée par le gouvernement et le patronat. C'est une volonté politique de faire mourir le textile et l'habillement.
Donc nécessité d'une reconversion.
1978.
Nécessité de reconversion, reconversion lente, hein, mais certaine.
Près d'un habitant sur 10 a poussé la porte du secours populaire dans le Nord l'an dernier.
2018.
246 300 personnes en tout. Un chiffre qui donne la mesure de la pauvreté dans la région.
On voit des grandes cheminées là-bas au fond, en briques rouges, des anciennes usines. Et on va où là, Marie?
Donc on va aller rencontrer une maman et sa fille, en sachant que normalement, sa fille devrait être placée, qu'elle est au domicile depuis le mois de septembre. Ça me préoccupe beaucoup, on va dire.
Elle devrait être placée, elle ne l'est pas, pour quelle raison?
Elle a mis en difficulté son lieu de placement, sur lequel elle était bien installée, en faisant beaucoup de bêtises, en faisant des fugues, en étant même des fois insultante avec les éducateurs. Enfin, tout ça a conduit à ce qu'elle soit exclue de ce foyer. Sauf qu'à partir de là, ça s'est devenu très compliqué pour elle, parce qu'en fait, elle a enchaîné des lieux de placement, mais toujours en sureffectif. Pas forcément des endroits où elle avait une place pour elle-même, en fait.
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi.
C'est un petit peu ça en ce moment. Effectivement, c'est le début des galères. Et en fait, on en arrive à ce que cette jeune fille, avait pas cette problématique-là, aujourd'hui, elle est, entre guillemets, devenue un peu incasable, parce qu'elle a peur quand on la conduit quelque part pour une journée. Tout de suite, du coup, elle monte son jour un petit peu, ou elle se défend, ou elle fait un petit peu, on va dire, la petite caïde du quartier. Et en fait, on a passé l'été à la conduire à droite et à gauche.
Et c'est ça qui vous inquiète?
Bah oui, parce qu'on en arrivait du coup au mois de septembre, alors après qu'elle ait traversé quand même beaucoup de lieux de placement, à ne plus du tout lui trouver de place. Là, depuis le mois de septembre, j'ai alerté je ne sais pas combien de structures, et j'ai aussi alerté ma direction pour avoir une famille d'accueil, je n'ai aucune réponse. Et du coup, depuis le mois de septembre, elle est chez sa mère. Là, on est dans le quartier de la Blanche-Porte, en fait.
Là aussi, il y a une grande usine avec tous les carreaux cassés, désaffectés. Puis les petites rues qui partent en parallèle avec les maisons rouges, toutes mitoyennes.
Ouais, là on est typiquement dans une rue ouvrière où les maisons c'est exactement les mêmes, elles ont toutes la même configuration. C'est vraiment le type de rue qu'on a le plus sur Tourcoing.
Votre destination se trouve sur la droite.
Voilà, je vous emmène.
Machine à laver abandonnée.
Bonjour.
Bonjour. Allez-y, rentrez.
On va tout salir, ça va?
Oui.
Elle est bonne mère, avec là.
Elle va bien juste se réveiller. Pourquoi depuis 7 heures, je lui dis, allez, je prépare.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous demander comment vous appelez?
Renard Virginie.
Vous êtes originaire de Tourcoing?
Oui. Née à Tourcoing aussi.
Et vous faites quoi dans la vie?
Mère au foyer.
Vous avez combien d'enfants?
6 en tout, mais 2 décès.
Ils habitent tous ici, vos enfants?
Non. Placés en foyer, famille d'accueil.
Tous?
Tous. Rebecca a 17 ans, Nicolas 14, Océane 4 ans, et Enzo, il a eu 2 ans. On fait avec, mais c'est dur quand même.
Va voir, Rebecca. Tu vas vraiment te réveiller, toi? Non?
Oui.
À l'habitude, Rebecca, elle va à l'école, mais ce matin, je lui ai permis d'échapper à l'école.
Tu vas où à l'école?
Liam pour le Rotle. C'est une école spécialisée, professionnelle. Je fais du ménage, je fais de la cuisine.
T'as aussi les ateliers maquillage, esthétique. Ça t'a beaucoup aimé. Ça t'a fait du bien aussi. Hein? Parce que Rebecca, elle a quand même un comportement assez compliqué à gérer des fois. Après, c'est Rebecca. Hein. C'est une adolescente avec des difficultés, avec de la joie de vivre aussi quand même. Hein. On verra bien si son avenir plus tard lui réussit. Moi, j'attends que ça. Pour l'instant, elle doit trouver un foyer ou une femme d'accueil pour être accueillie, pour dire qu'elle puisse finir son avenir tranquillement. Mais pour l'instant, elle n'a pas de solution, donc elle est au domicile de la maman. On attend vraiment que ça se débloque quelque chose pour elle.
Mais t'as déjà été en foyer, toi ?
Oui, j'ai déjà été.
T'avais quel âge ?
Oh, mon premier, j'avais 9 ans, non ? Et le deuxième, 17 ans.
Et comment ça se passait ?
Le deuxième, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais pas rester.
Pourquoi ?
Bah, parce que j'en avais marre. Et après, j'avais un copain aussi. Et je faisais n'importe quoi. Bah, je fuguais. Enfin, toutes des bêtises, quoi. Après les foyers, j'ai fait des familles d'accueil. Il y en a une, j'ai fait une grosse bêtise. Parce que ça m'a amené jusqu'à la justice et tout. Donc...
La grosse bêtise qu'elle a faite, en fait, c'est un vol de voiture à sa famille d'accueil.
Bah, la famille d'accueil, il y avait une caméra. Et ils ont vu que c'était moi et voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Bah, ils sont venus me chercher. Parce qu'en fait, j'étais partie devant chez mon copain. Après, ils m'ont demandé où elle était la voiture. Je ne leur ai pas dit au début. Et après, bah, y a la police qui est venue me chercher.
Et après, tu as été dans une autre famille d'accueil ?
Oui, non, j'ai fait une autre famille d'accueil. Et je suis partie un mois. Je suis partie un mois de la famille d'accueil. Et après, bah, elle ne pouvait pas me garder.
T'es partie un mois, ça veut dire que t'es partie en fugue ou...
Ouais, ouais, j'étais en fugue.
T'étais où pendant un mois ?
Dans la famille à mon ex. Et
ta maman, elle était au courant ?
J'étais au courant, mais je pouvais pas réagir. Parce que moi, j'ai eu un ordre de la juge en disant qu'elle devait plus être dans le domicile. Que si elle devait trouver quelque chose, c'était une famille d'accueil ou un foyer. Mais Rebecca, eh ben, elle suivait toujours son copain. Quand il voulait d'elle, il la prenait. Quand il n'avait plus envie, il la mettait dehors. Et la police, il la ramenait à la maison. Il me disait, eh ben, comme elle est mineure, vous la gardez. Jusqu'à me ramener les pompiers à la maison. Ils ont essayé de me casser le carreau pour la faire obliger de rentrer chez moi. Ça pouvait être 5h du matin, 4h. On dormait plus, on vivait plus. C'était des vols à domicile, des agressions, des insultes, des menaces envers les voisins. Parce que les voisins, ben, du fait qu'ils voyaient toujours la police arriver, ils n'ouvraient plus la porte. Donc du coup, ils ont essayé de lui brûler sa voiture au voisin. Donc le voisin a porté plainte à plusieurs reprises. Il y a eu des mains courantes à plusieurs reprises. Et là, on essaye de que Rebecca ait un meilleur avenir que ça et qu'elle reprend sa vie actuelle, l'école, le travail. Et peut-être par la suite, un logement pour elle.
En fait, c'est ça qui est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'on n'a plus de structures qui peuvent accueillir sur le long terme un fugueur, par exemple. Les places sont tellement chères que dès qu'un enfant est en fugue plus de 5 jours, il perd sa place. Et ce qui fait qu'on en arrive à des situations comme ça, où finalement, bah, Rebecca, elle a fait plein de lieux de placement cet été, et puis au mois de septembre, elle est venue me voir en me disant « Mais je suis fatiguée, je suis en fugue chez maman, je sais que j'ai pas le droit d'y être, mais j'ai plus envie d'aller à droite à gauche, je suis fatiguée. »
Là, en théorie, elle n'a pas le droit d'être ici.
Non, pas du tout, elle n'a pas le droit. Mais je la garde parce qu'elle est mineure, c'est quand même ma fille. Je peux pas la laisser dehors.
Tu devrais être où ?
Bah, placée normalement.
Mais si là, il n'y a pas de place.
Elle est sur liste d'attente de certaines structures qu'elle a visitées. Il y en a une notamment qu'elle a bien aimée, Rebecca. Elle m'a dit que si jamais il y avait enfin une place qui se libérait pour elle, elle irait. Mais oui, c'est quand même un gros problème. Parce qu'on sait aussi que c'est fragile ici. Il y a des moments où ça va et il y a des moments où c'est vraiment très compliqué entre elles.
Mais n'empêche que là, il n'y a pas de place là en ce moment. Et donc si elle ne doit pas être ici, où est-ce qu'elle doit être s'il n'y a pas de place ?
Disons que si elle se présente...
À la rue, sinon c'est le commissariat. Ils la prennent à mettre dans un foyer d'urgence. Mais le foyer d'urgence, il la laisse partir au matin parce qu'ils n'ont pas le droit de plus d'une nuit. Donc du coup, elle se retrouve sans solution du lendemain. Et à chaque fois, c'est relevé comme ça à chaque fois.
Et nous, si elle se présente à l'UTPS, à chaque fois, on l'emmène en famille d'accueil. Mais ce qui énerve Rebecca, et ce que je peux comprendre, hein, c'est que c'est pareil. On trouve des places pour une nuit, pour deux nuits... sur une famille d'accueil qui accepte de la prendre dans l'urgence pour dépanner, mais qui n'a pas forcément de place pour elle. Et c'est comme ça que cet été, elle a changé tout le temps. Parce que quand elle se présentait en disant « bah finalement, voilà, mon petit copain, il veut plus que je reste chez lui, et bon, faut que finalement, j'ai pas le choix, j'accepte mon placement aujourd'hui », en fait, on trouvait des solutions pour une ou deux nuits. Et donc forcément, elle se sentait pas accueillie, elle se sentait pas bien là où elle arrivait parce qu'elle savait que c'était que pour 2 jours. Et donc derrière, elle repartait avec son petit copain systématiquement.
Je préfère rester chez maman en attendant qu'on me trouve un truc sûr. Parce que je sais que si je repars dans des familles d'accueil où je fais que 2 jours ou quoi, ben je vais recommencer à fuguer. Parce que ça va m'énerver. Je vais recommencer mes fugues et que voilà. Ça recontinue comme avant.
Conversation intense sur le téléphone.
C'était non-stop.
L'école est là, mais c'est déjà bien. Je pense plus à le sortir alors qu'avant. Hein. Je m'en faisais tout le temps crier parce que je le sortais, je m'en fichais. C'était mon téléphone et c'est tout. Quoi.
Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. J'ai des bornes et des barres à franchir avant de pourrir. Resserre-moi un verre qu'on efface tout souvenir. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'autodétruire. J'ai la gueule charbonneuse de mes jours de turbin. Dernier bus le soir, premier train du matin. Les nids d'emmerde m'attirent comme la peste. Au lendemain d'un soir de tease, le souffle qui empeste. Les smells qui collent à la bière et à la crasse. En fin de soirée cousin, tu peux nous suivre à la trace. Les rêves qui déchantent caressent tous le même chien. Toutes les nuits je réinvente le même parcours assassin. Je recherche les endroits sombres à l'heure où il se fait tard. Je fomente avec les rats, la grisaille, les cafards. Nos séquelles, nos angoisses, dans tout schéma brutal. On s'en met à ce que la nuit a enfanté de plus sale. Je pense qu'il reste à la clairvoyance des fous. Du ciment, une truelle pour mon cerveau et ses trous. Ma connerie en moins, tu trouverais le temps long. Change de trottoir ou de poste, arrête de poser des questions. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. J'ai des bornes et des barres à franchir avant de pourrir. Resserre-moi un verre qu'on efface tout souvenir. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'autodétruire.
Mais toi du coup Rebecca, tu voudrais quoi là pour l'avenir à...
Oh, j'en sais rien du tout moi. Je vis au jour le jour. Ouais.
Vous voudriez quoi pour elle?
Bah, qu'elle se trouve un bon métier, qu'elle s'en sort, qu'elle a une belle vie quoi. C'est pas de, d'être comme ça là actuellement, je la vois pas bien. Donc elle est pas bien, mais moi non plus.
Marie, tout à l'heure elle disait que vous disputiez beaucoup.
Oui, parce que le matin n'est pas du matin du tout. Donc il faut la réveiller, la forcer. C'est tout sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'hygiène, c'est pareil, il faut la forcer. Lui dire, allez Rebecca, il faut la rebousquer. Comme si qu'elle avait 2 ans sur sa tête, quoi. C'est encore un petit enfant, Rebecca. Elle veut pas se voir grandir. Elle aime bien toujours qu'on s'occupe d'elle.
C'est vrai que vous disputez beaucoup ou t'as pas l'impression, toi, que vous disputez beaucoup?
Ouais, on se dispute beaucoup, hein, quand même, ouais. Pour tout et pour rien. Parce que j'ai pas fait mon lit, ou parce que je suis pas rentrée à l'heure, ou parce que j'ai pas fait un truc qu'elle m'a demandé. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Du coup, toi, tu réagis comment?
Bah, je râle après, ça prend une dispute.
Des bombes à retardement. Allez, quoi.
Mais du coup, ça reste verbal, quoi, ça en vient pas aux mains.
Si, ça vient aux mains. Si. Une fois qu'elle est rouge, moi je suis rouge, ça en finit, j'ai aux mains. Et ça peut être très violent. La dernière dispute qu'on a eue, elle s'est retrouvée avec des béquilles. Là, je suis gonflée. Moi, je me suis retrouvée avec le dos carrément au niveau des vertèbres déplacées. Donc, ça fait beaucoup.
Parce que vous étiez battue?
Oui, on s'est battue. Parce que ce jour-là, ben, c'est Rebecca qui voulait suivre son copain, vol. C'était la police, ils m'ont appelé. Venez la chercher au commissariat, vol au champ, 60 euros. Du lendemain, elle revient ici, de retour vol. C'est sans cesse. Avec ce garçon-là, c'était que ça. Des vols, insultes, menaces vers les services sociaux, la juge, moi, sa propre famille, elle s'en foutait. Elle voyait que par nuit, elle avait des œillères.
Tout ce qu'il pouvait faire, je le suivais. J'avais pas de stop, en fait. C'était lui, je le suivais tout partout, tout partout.
Et là, c'est fini?
Ah ouais, là c'est fini, c'est sûr même. J'en ai fait trop. Ça devient trop dangereux. Je me mettais en danger en fait.
Non, et ben elle a repris l'école et on espère que ça dure.
Ça c'est depuis quand que t'as repris l'école?
Ça fait 2 semaines.
Ah, c'est tout récent.
Ouais, c'est tout récent. ça se passe bien. Je vais devoir faire des stages et tout. Donc ça va.
Mais avec vos autres enfants, c'est compliqué comme ça aussi, du fait qu'ils sont placés.
Avec mon fils, oui. Les deux petits, non. Les deux petits, oui. Ben, ils ont eu du mal le premier jour où la juge elle a décidé le placement. Parce que pour eux, c'était maman, papa. Comme ils sont petits, ils ne se rendaient pas compte sur le coup. C'est qu'après, ils s'en ont rendu compte. Mais le garçon, après Rebecca, lui, c'est encore plus compliqué qu'elle. Parce que lui, c'est carrément drogue, fugue... vol, agression, menace, insulte. Et c'est pour ça qu'actuellement, il n'est pas à la maison, il est sur Perpignan. Il est placé dans un foyer à Perpignan. Il n'a plus le droit de dormir au domicile.
Et à chaque fois, les décisions du juge de placement, vous êtes d'accord avec ou vous avez du mal à les accepter?
Il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Par exemple, la situation de CNN, je n'étais pas trop d'accord. Rebecca et Nicolas, c'est moi qui ai demandé le placement. Parce que comme j'étais en procédure de divorce et que c'était compliqué avec leur papa, du coup j'ai préféré les mettre en sécurité quand même. C'est moi qui ai été voir les services sociaux qui a demandé le placement. Pour Océane et Enzo, non.
Ça fait combien de temps là qu'ils sont placés?
Depuis le mois de mars. Normalement janvier, ça serait à domicile, mais à condition qu'ils trouvent une solution pour Rebecca, sinon c'est refusé. On verra bien.
Est-ce que vous avez un peu peur que les petits ils suivent le parcours des plus grands ou...
Quand même, ouais. Après, je me dis, le mieux pour moi, c'est de les récupérer quand même, quoi. C'est dur.
Effectivement, ce qu'elle espère, c'est qu'Enzo et Sven viennent 4 heures ici à domicile avec l'aide de la travailleuse familiale. Et puis qu'ensuite, peut-être, ils viennent en week-end. En général, on y va par étapes pour aussi voir comment ça se passe... pour que et la maman puisse retrouver sa place et puis que les enfants puissent aussi retrouver leur place à la maison. Et c'est vrai que tant que Rebecca est là, il ne faut pas qu'ils assistent à des disputes et des violences. Mais ce n'est pas que propre à Rebecca. Je pense aussi que c'est... On est dans une famille où les choses prennent vite de l'ampleur, on va dire ça comme ça. Et du coup, effectivement, il faut que ce qui s'est passé pour les grands n'arrive pas pour les petits et qu'on arrive à faire en sorte qu'ils aient pas ce parcours aussi difficile qu'ont eu Nicolas et Rebecca. Mais des fois, quand c'est vraiment, on en arrive à des situations trop critiques, on est obligé de passer par le placement. Madame, elle a vraiment eu une histoire compliquée, une vie pas facile, et les enfants, ils sont un peu retrouvés au milieu de tout ça.
Et du coup, toi, comment tu vis tout ça, toutes les tensions à la maison?
Bah là, ça va, parce qu'il y en a peu. Mais quand j'en avais ou quoi, bah, je partais. Je partais tout le temps. Je restais pas à la maison.
Et des gens comme Marie t'ont aidé, par exemple?
Ils ont fait des trucs bien quand même pour m'aider. Moi, après, il y en a. Où je me jouais, ils ont servi à rien dans ma vie.
Les éducateurs?
Ouais, par exemple. Parce qu'il y en a, ils sont pas là pour t'aider. Enfin, après, c'est mon impression, hein, mais.
C'est-à-dire, tu fais la différence comment, Rebecca? C'est quoi pour toi un éducateur qui aide et c'est quoi un éducateur qui aide pas?
Un éducateur qui aide, c'est comme toi, par exemple. Tu nous aides à nous en sortir et tout, alors qu'il y en a, non, ils vont tout faire pour te. Pour que les jeunes y sont placés ou tout des trucs comme ça. Et pour moi, c'est pas un éducateur qui aide.
Tu veux parler du premier éducateur qui est venu ici?
Oui, par exemple, le premier éducateur qu'on a eu, bah, pour moi, il m'a pas aidé. Parce que, après, il nous a peut-être mis en sécurité, mais il nous a pas aidé totalement.
C'est-à-dire, il vous a mis en sécurité, ça veut.
Et bah, il nous a éloigné de la famille parce que la famille, c'était compliqué. Ouais, fort compliqué même. Il voulait nous placer et puis c'est tout. Et je l'ai pris comme une punition. Quand il est venu nous chercher à la maison pour nous mettre en foyer, c'était compliqué ça aussi. Ah, je voulais pas au début, même rentrer dans le foyer, c'était pas possible, je voulais pas. Et les week-ends à la maison, ben, c'était pas du plaisir à prendre. C'était... Je voulais plus rentrer au foyer que rester à la maison.
Mais pourquoi?
Ben, parce que c'était compliqué avec mon oncle et tout, parce que à ce moment-là, on dormait chez ma grand-mère. C'était compliqué avec mon oncle. Et ça n'allait vraiment pas, du coup, on préférait retourner au foyer que dormir chez notre grand-mère.
Ma mère, ses 5 enfants, et ben, puisqu'ils n'avaient pas de situation, et ben, elle les prenait chez elle, même si c'était difficile, elle les accueillait. C'était les enfants, les petits-enfants, après ses cousins, une cousine. C'est tout le monde réuni, quoi. Après, ben, les enfants, ils ont pu accepter cette vie-là.
Et avec ton oncle, là, tu disais que ça se passait mal?
Oh, lui... Je préfère même pas en parler parce que c'est pas une personne bien, c'est une personne très mauvaise.
Il a tellement fait de misère, tellement de mal à toute la famille qu'il est rejeté, en fait.
De toute façon, il a fait de la prison pour ça.
Il a fait de la prison, tu dis?
Ah oui, c'est sa deuxième maison, comme il dit. Il est fier.
Il a fait tellement de mal que... Il serait plus sur ce monde-là, on serait tous contents. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on dit.
Et vous dormiez pas ici, elle revenait pas ici?
Non, j'habitais pas à l'époque ici. J'ai emménagé ici quand j'ai eu l'incendie et que j'ai perdu mon fils. Et qu'ils étaient déjà en foyer.
Il y a eu un incendie chez vous?
Chez ma mère. Et mon fils est resté dedans.
Lui, il avait quel âge?
4 ans. Il s'est retrouvé dans un foyer, à Roubaix. Le Cap Ferré, ça s'appelle. On a fait des démarches avec eux et on a trouvé ce logement-là.
Depuis tout à l'heure, vous pleurez beaucoup.
Oui, il y a de la tristesse, il y a de l'amour, il y a un peu de tout. Parce que moi, j'aime bien avoir une belle famille qui s'entend bien, qui a la joie de vivre, quoi. Parce que là, on se déchire tous.
Toi, tu penses que ça va s'améliorer quand même dans l'avenir?
Déjà, rien que j'ai repris l'école et que je me reprends en main, ben, ouais. Oh, ça ira. Je perds pas espoir.
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à 3 fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants, et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, y'a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles y'a plein d'objets inutiles fascinants.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers.
Vous êtes au courant du coup que Marie et puis tous les gens de l'aide sociale à l'enfance, ils sont mobilisés en ce moment à cause du manque de place?
Ah oui, je suis au courant de tout. C'est pour ça que je les soutiens aussi pour de ce côté-là. Parce que moi, quand je vois mes enfants, comment ils ont eu de la difficulté et qu'ils en ont encore, il y a eu trop de places de fermées et ils n'ont pas pensé qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont beaucoup en difficulté.
Et aujourd'hui, nous, sur notre service, on est donc 8 maintenant. On n'est que 3 titulaires, c'est-à-dire 3 en poste fixe. On tourne avec quand même 5 CDD, dont le contrat peut s'arrêter à tout moment et ils peuvent être remplacés. Et ça, pour des enfants, c'est pas bon. Ils ont besoin d'un éducateur référent. Normalement, on devrait être là vraiment sur la continuité. On a des jeunes dans le service, on s'est rendu compte, par exemple, certaines années, ils ont changé 5 fois.
D'éducateur?
Ouais. Donc c'est pareil, des jeunes qui veulent plus nous raconter leur histoire, par exemple, ils ont raison. Ils me disent, je l'ai dit à celui d'avant, puis à celui encore avant. C'est dur de raconter son histoire et de raconter ce qui se passe. Donc ils ont plus envie, ils perdent confiance. Ils n'ont plus personne pour s'appuyer, parce qu'on est des passeurs, moi je dirais ça comme ça. Des passeurs entre des fois certains lieux de placement, avec leur famille. On est vraiment là pour les aider à faire des passages comme ça entre des lieux différents de leur vie. Et s'ils peuvent pas s'appuyer sur nous pour ces moments-là, c'est compliqué. Rebecca, par exemple, elle parle de son foyer en disant « ils m'ont pas aidé ». Alors en même temps, il faut savoir que dans cette institution-là, il y a un groupe d'ados. Des fois, l'éducateur, il se retrouve tout seul. Forcément, Rebecca va dire « il sert à rien, il est pas disponible ». Ben oui, seul avec 18 enfants, ça paraît fou. Personne peut être disponible avec 18 enfants en même temps. Déjà, il faudrait renforcer toutes les équipes de toutes les structures. Il y a des jeunes comme ça, ils vont se présenter, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit réactif. Et ça, on a du mal à le faire. Vraiment, par manque d'effectifs, c'est compliqué. Sur le département du Nord, il y a des départements, ils ont 20 mineurs seulement. Nous, on en a 40. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils nous rejoignent à la manifestation, la Haute-Savoie, parce que là, on leur a demandé de passer à 27. Pour des coupes budgétaires. Et c'est là où on se rend compte que sur tous les départements, c'est en train de se dégrader. Enfin, je veux dire, c'est pas propre à chez nous. Alors nous, c'est sûr qu'on était déjà un petit peu en condition dégradée depuis beaucoup d'années. Donc c'est chez nous que ça se voit le plus vite. Mais c'est en train d'arriver sur toute la protection d'enfance, sur tous les départements.
On sacrifie la protection de l'enfance.
Ah oui, complètement. Mais parce que l'État donne moins de dotations au département. Donc le département a moins d'argent. Et du coup, bah voilà, ils font des coupes budgétaires et sur la protection de l'enfance. Et ça, il faut que l'État en prenne conscience aussi. C'est sûr que si on met bout à bout tous les enfants qui sont placés ou qui sont suivis dans tous les départements, ça fait comme une partie des citoyens de demain, quoi. Ça fait beaucoup de Français.
À bientôt.
Bonne journée.
Un cruel défaut de moyens publics. Alors qu'en entendant en longueur ces témoignages, Charlotte, on mesure combien il est parfois difficile de casser la répétition du malheur.
Et c'est pourtant bien le rôle de l'aide sociale à l'enfance, casser la répétition du malheur et faire en sorte que les enfants comme Rebecca connaissent autre chose que les cris et la violence. Mais les défaillances de l'institution et le manque de moyens humains font qu'aujourd'hui, 40% des enfants qui en sont issus se retrouvent à la rue à leur majorité. Alors pour suivre la mobilisation, allez faire un tour sur la page Facebook du collectif Dégradé.
Et alors que Rebecca et sa mère s'accrochent pour ne plus subir leur sort, leur passif, ailleurs Antoine, d'autres se bougent pour avoir droit eux à un avenir.
Oui, ils étaient 2600 élèves et enseignants dans la rue, selon la préfecture de police, pour 450 lycées perturbés dans toute la France. C'était mardi dernier, mardi noir, dans la foulée des Gilets jaunes et à l'appel de trois syndicats lycéens, mobilisés pour dénoncer la sélection à l'entrée à l'université instaurée par le système Parcoursup, la réforme du bac et la répression policière. En solidarité donc avec les lycéens de Mantes-la-Jolie et leurs parents victimes de l'interpellation musclée et humiliante du jeudi 6 décembre devant le lycée Saint-Exupéry dans le quartier du Val-Fouré, et une marche qui était organisée aussi par le collectif de défense des jeunes du Mantois le lendemain.
Et les facs, elles sont à qui ? Elles sont à nous !
Et les facs, elles sont à qui ?
Elles sont à nous !
Et la rue, elle est à qui ?
Elle est à nous !
Ma gauche fait plus de bruit que vous tous.
Mardi 11 décembre, 12h, place Saint-Michel. Les lycéens se mobilisent. Réduire le nombre de jeunes, impossible. Augmenter le nombre de places, nécessaire. Lycée Michelet en lutte. Il est où le lycée Michelet? Vous venez d'où?
De Vanves.
De Vanves.
Tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous revendiquez? Là, il y a une banderole derrière vous. Réduire le nombre de jeunes, impossible.
Augmenter le nombre de places nécessaires. Oui, bah alors déjà, c'est vrai que nous, on fait partie d'une génération, particulièrement à Michelet, c'est un problème où il y a de plus en plus de monde.
À Vanves, hein, c'est ça?
Oui, à Vanves, c'est ça. Et on est 36 par classe et c'est vraiment, enfin, c'est l'enfer, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, nos revendications, c'est la suppression de la réforme du lycée et du bac, à cause notamment du contrôle continu qui fait que le bac, il prend une valeur différente en fonction des lycées. C'est les autres lycées qui ont des problèmes, mais ça nous scandalise quand même de savoir que... On est privilégié et que au détriment des autres, quoi.
Rejoignez-nous, 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 rejoignez-nous.
Nous, on vient du lycée Jean Zay à Aulnay-sous-Bois dans le 93.
C'est comment votre prénom?
Nguyen Diego.
Jérôme.
Alors c'est quoi votre pancarte que vous portez?
Nous, c'est 49 523 étudiants sans fac le 4 septembre 2018. Est-ce que tout va bien?
Donc là, c'est Parcoursup, hein, c'est ça que vous
voilà,
dénoncez?
Parcoursup et la réforme du bac.
La vraie raison de Parcoursup, c'est pas vraiment que ça gère mal, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour les étudiants. On fait pas assez de place pour les étudiants. On veut gérer, mais à un moment donné, il faut créer aussi. Il faut créer de la place dans les facs. Il faut plus de facs que ça.
Et des moyens.
Et on règle pas ce problème en pratiquant la sélection des élèves. On règle pas comme ça ce problème.
Et vous trouvez que vous êtes particulièrement discriminé dans le 93 en général?
Oui, c'est... Énormément d'élèves, énormément de grandes sœurs, énormément de grands frères sont refusés dans des facultés, dans des universités de Paris parce qu'on vient du 93, parce qu'il y a, déjà cette disparité-là qui est faite, mais sans compter toutes les disparités qui sont maintenant faites avec le Parcoursup. C'est même plus une injustice, c'est un manque de respect, c'est quelque chose qui ne va pas dans cette France et je pense que c'est pour cela que tous les jeunes se réunissent aujourd'hui.
Et vos enseignants, ils vous accompagnent là dans cette mobilisation?
Il y en a beaucoup. Il y en avait là-bas tout à l'heure et on en a, oui. L'institution ne se bat pas, Mais par contre, les êtres humains qui en font partie, eux, se battent.
Alors, vous venez manifester, alors ? Vous êtes parent d'élève ?
Je suis parent d'élève et je viens accompagner les lycéens là, de Stein, du trio. Voilà.
C'est important de les accompagner, c'est important qu'ils se mobilisent aussi.
Alors, c'est très important qu'ils se mobilisent. Et puis au vu de ce qui s'est passé là, la dernière semaine, avec tout ce qu'on a vu, tous ces enfants mis à terre, mis en joue, je me devais d'être là. Parce que bah, effectivement, j'ai un petit peu peur quand même de comment ça va se dérouler aujourd'hui.
Ils ont quel âge vos enfants ?
Alors le lycéen qui est avec moi, il a 15 ans et 11 ans.
Et vous vous inquiétez pour leur avenir ?
Tout à fait, parce qu'on est quand même dans le 93 et puis on se rend compte que toutes ces réformes de bac, eh ben, bientôt on aura peut-être un bac bien marqué 93 parce que ben, on n'aura peut-être pas les mêmes options que dans d'autres lycées qui sont dotés différemment que les nôtres. Donc oui, on a un peu peur d'avoir des bacs à rabais.
Emmanuel Macron a pris la parole, vous en pensez quoi ce qu'il a dit ? Ça vous a rassuré vous ?
Pas du tout, j'ai pu l'écouter que 3 minutes, j'ai craqué, j'ai éteint ma télé. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de le faire sauter lui, quoi. Parce que si on ne met que des images de violence de tout ce qui s'est passé en manifestation, je parle pas des casseurs, hein. Je parle vraiment des gens qui se sont fait...
Des violences policières. Quoi.
Voilà, voilà. On est là pour manifester, pour dire ce qu'on a à dire, on n'a pas à se faire réprimander comme ça. J'ai même plus les mots, quoi. C'est tellement horrible, j'ai même plus les mots, franchement. Comme je dis, je n'ai que des bombes dans ma bouche.
Des bombes ?
Ouais. Et je suis quand même quelqu'un qui est non-violent, mais à force, c'est vrai que là, on se dit, la violence, elle est de quel côté, en fait ? Parce que la violence quotidienne, sociale, on la vit tous les jours. C'est ce que c'est.
On vit sous tension et c'est tout le temps sombre et je m'en fous dans le fond, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. On vit sous tension et c'est tout le temps sombre et je m'en fous dans le fond, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément, je suis dans mon élément. Le cerveau fermé comme un resto dans mon quartier. Un jour de ramdam, je vais quitter Paname. J'ai plus rien entendre, trop souvent ça rafale. Il faut que je parte ailleurs, ils me souhaitent pas le succès mais v'là le malheur. J'habite un film où il n'y a pas d'acteur, où les mauvaises actions n'entraînent que des larmes. Et je suis jamais au bout de mes peines, mon ex m'appelle mais tout est perdu. On sait très bien que la coupe est pleine. Et moi je marche seul sur l'avenue, j'entends les embrouilles des craqueurs, c'est ça depuis mes 15 ans, visage grinçant. On filme la mort sur des iPhones, on lave nos morts dans des bains de sang, visage grinçant. Y'a des gens qui chassent les migrants dans les Alpes, non. Des mecs de mon âge qui refusent les blocus dans les facs. J'ai des raisons de tirer sur ce joint de bœuf. Mon pote s'est réjoui de la mort d'un keuf. J'amènerai la haine anti-flic et les bavures de ces putains de racistes dans mon linceul. On vit sous tension et c'est tout le temps sombre et je m'en fous dans le fond, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. On vit sous tension et c'est tout le temps sombre et je m'en fous dans le fond, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Monter les uns contre les autres. On se fait du mal, j'en oublie les causes. Ensevelis les doses qui nous endorment libres. Comme un homme qui embrasse un homme. Dans ma jungle de béton, les rêves poussent. Mais l'espoir y est atrophié chaque jour. Tu peux mourir comme chaque cours. Pour une histoire d'ego, tu te fais arroser. Les cheveux de toutes les couleurs. Le regard des autres n'est plus important. On m'a dit si tu doutes, ouais tu meurs. La lune et le soleil m'éclairent tout en m'implorant. C'est moi qui fais le monde, c'est toi aussi. C'est pas lui qui nous fait. Dis-moi ce que tu sais. Dis-moi quand tu saignes. Dis-moi quand tu m'aimes. Dis-moi quand tu fuis.
Alors la banderole, là, c'est quasiment la plus grande banderole de la manif. Hein, en rouge, bien évidemment.
En rouge, ouais. Notre plus beau patrimoine, c'est notre jeunesse. Faut pas l'oublier.
Alors vous êtes lycéen où ?
Moi, je suis lycéen au lycée Sugère de Saint-Denis, en dernière année.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Ben, ce qui m'inquiète, déjà pour les personnes qui viendront après moi, c'est la nouvelle réforme du bac, qui va aller étiqueter en fonction du territoire où on a étudié. Et du coup, le bac n'aura plus la même valeur. Et puis, pour ma part, personnellement, c'est Parcoursup. Qui instaure un système de discrimination géographique évident en fonction du territoire où on étudie. Donc moi qui viens du 93, j'ai moins de chances d'être pris dans une fac parisienne que quelqu'un qui vient de Paris. Voilà, même avec un bon dossier.
Et la répression policière ?
Également, on est aussi là contre la répression policière parce que après nos mobilisations devant nos lycées, pas mal d'entre nous ont subi des violences policières avec un usage démesuré de la force, notamment des tirs de flashball, de gaz lacrymogène et des coups de matraque. Donc on tient à montrer notre protestation à ce niveau-là aussi, c'est inadmissible.
Et là tout le monde s'agenouille, hein.
Tout le monde s'est agenouillé en solidarité avec les camarades de Mantes-la-Jolie qui se sont fait
avec les mains derrière la tête.
Avec les mains derrière la tête, ouais. Qui se sont fait humilier par la police la semaine dernière. Donc on exprime notre solidarité. Voilà.
Prochain arrêt, Mantes-la-Jolie, terminus des trains.
L'ambiance est grave.
par manque de menottes, ils ont les mains entravées ou sur la tête.
La police vient de procéder à 148 interpellations à Mantes-la-Jolie.
Sur la vidéo amateur, ce commentaire...
Voilà une classe qui se tient sage.
C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner.
Changement, attention !
Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Collectif de défense des jeunes du Mantois. C'est une marche qui démarre de la dalle de la place du marché de Mantes-la-Jolie. Il y a du monde, hein?
Ouais, on a essayé de courir à droite pour avoir au maximum, voilà.
Et voilà. Vous êtes alors ?
Le papa d'un élève.
Ah ouais, vous êtes le papa d'un élève,
voilà,
d'accord.
Voilà,
ouais. Contre la répression !
Deux mains à la camionnette !
Solidarité !
Ça va trop vite. Deux mains à la camionnette !
Violence policière, parents en colère !
Violence policière, parents en colère !
Donc on est devant le lycée, hein, c'est celui-là, hein, c'est le lycée Saint-Exupéry.
C'est Saint-Exupéry, ouais.
Pas de justice,
voilà.
Voilà. Pas de justice.
Et il a quel âge, votre fils ?
C'est à 17 ans.
17 ans.
Et c'est là, on va passer là-bas où ils ont mis au genou. Voilà, c'est ici.
D'accord, juste voilà. En face, quoi.
C'est juste la sortie de lycée.
Ouais. Lycéens humiliés.
Parents mobilisés.
Ces jeunes ont été humiliés ici, pas très loin, à quelques mètres, dans un jardin clos, parqués comme des animaux. Des jeunes qu'on a menottés pour certains. Ce qui s'est passé réellement aussi, c'est qu'on avait des jeunes âgés de 13 à 20 ans, 13 ans, c'est l'âge d'un collégien.
Le matin, j'ai mon fils de 7 ans qui se lève et il me dit « Maman, il est où ?» J'ai pas voulu l'inquiéter, donc je lui ai dit « il a dormi chez un copain ». Donc j'ai récupéré mon fils de garde à vue à 13h. J'ai vu des enfants sortir... Mais vraiment, c'est des images que je n'oublierai jamais de ma vie. Des enfants, ils avaient des regards, mais d'enfants, tout pâles. Ils étaient apeurés.
Ma fille, elle s'est rendue au lycée. Et à 16h30, je vois ma fille n'est pas rentrée. Vers 17h30, je reçois un coup de fil du commissariat de Trappes en disant que ma fille est... En disant que ma fille est en garde à vue à Trappes. Donc j'ai attendu. Donc vers 19h30, je reçois un appel du commissariat en voulant me dire vous pouvez venir chercher votre fille. Et je lui ai expliqué comme de quoi je n'avais pas le moyen et la possibilité de venir chercher ma fille à Trappes. J'ai dit vous êtes venu chercher ma fille à Mantes-la-Jolie, c'est à vous de la ramener. Ils m'ont dit non, dans ce cas, vous prenez un taxi, vous venez la chercher. J'ai dit, j'ai pas le moyen pour payer un taxi. Et c'est à ce moment-là, ils m'ont dit donc, si vous pouvez pas venir chercher votre fille à Trappes, on va la garder au foyer. Et avec. Et vers 23h30, je reçois un coup de fil du commissariat. Ils me disent, on va vous ramener votre fille à. Au commissariat de Mantes-la-Jolie. Et vers 1h du matin, donc on a pu récupérer notre fille.
Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette humiliation, cette violence qui a été menée à l'encontre des lycéens. Cette humiliation qui peut même faire penser à une image de soumission ou une image d'archive de notre histoire. Pour ma part, je ne pense pas que cela serait passé de la même manière dans les quartiers les plus riches. Ils pensent que nous venons de quartiers populaires, qu'on va se taire et qu'on va retourner à nos affaires. Les forces de l'ordre ont voulu, par cette action, nous faire peur. Mais il faut qu'ils sachent qu'après même toutes leurs tentatives de dissoudre cette manifestation, qu'on va se relever deux fois plus fort, qu'on va crier deux fois plus fort et qu'on va manifester deux fois plus fort.
Pas de justice! Pas de justice!
Et oui, parce que Mantes-la-Jolie Trappes, ça fait quand même 48 km.
C'était comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site franceinter.fr et par exemple, si vous êtes à Paris demain, n'hésitez pas à aller retrouver l'arrivée de la marche des oreilles des défenseurs de la maternité du Blanc dans l'Indre dont nous vous avions parlé précédemment. Laissez-nous aussi des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. On se retrouve samedi prochain à 16h et après les infos, vous retrouverez Jean-François Ziegel.